1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut amis auditeurs, on se retrouve pour la troisième émission de mars. Salut Ariane, salut Ghislain.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Alors l'échéance se rapproche.
Oh, arrête.
Quoi arrête?
C'est déjà assez dramatisé dans la télé quoi, tu vas pas nous le faire aussi quoi.
Non mais je parle du printemps moi.
Ah okay.
On est à quelques jours du printemps, ça vous rend pas heureux tout ça?
Non, parce que moi, le printemps, c'est synonyme de plein d'allergies.
C'est
pas forcément ma saison préférée.
Ami auditeur, tu n'as pas l'image, mais nous confirmons. Donc, troisième émission sur les élections à venir, présidentielles, législatives.
On a décidé, et au-delà.
Oui, et au-delà, puisqu'on va parler. On a décidé de faire une émission spéciale instruction civique, parce que finalement, on en parle relativement peu. Donc, on va parler mode de scrutin, réforme, bip. Et on va commencer par. on va commencer par un son. Qui est-ce qui l'a préparé ce premier son? C'est toi, Ghislain?
Oui, d'accord.
Pour lancer l'émission, donc instruction civique.
Mais c'est sur ordre d'Ariane.
C'est sur ordre d'Ariane,
oui,
d'accord.
Je ne sais pas ce que tu en auras fait, vois-tu.
Donc ce son, tu le présentes en quelques mots, Ariane?
Donc c'est à nouveau un son qui est extrait de la super fiction politique organisée par La Bassi J'y suis sur France Inter. Et dans cette portion-là, ce sont les ministres chargés de la réforme des institutions qui se penchent voilà, sur l'éducation civique et qui vont expliquer in situ et in vivo leur projet en expliquant à une classe primaire petit peu de quoi ils retournent.
Bon, alors moi j'ai coupé avant qu'ils parlent à la classe primaire.
Ah
et
bon
ouais.
Et c'est, tu vois, je savais pas ce qu'ils m'avaient fait.
Tout ce qu'il y avait avant en fait. Et c'est donc les pinceaux Charlot, les ministres.
Ah d'accord. Oui. On les écoute.
L'instruction civique, matière obligatoire, c'est écrit dans les textes officiels. Elle doit permettre aux futurs citoyens de connaître les institutions de leur pays. Sondage en main, un constat s'impose. Les jeunes électeurs de 18 ans, tout comme leurs parents, ont une connaissance plutôt médiocre des institutions politiques. Officiellement, l'école doit former des citoyens. C'est vrai, les notes scolaires importent peu. Mais eux, auront-ils les moyens de noter les hommes politiques?
Alors, monsieur et madame les ministres, Monique et Michel Pinson-Charlot, je vous retrouve à l'occasion de ce premier déplacement dans cette école de la rue Le Pic, cette école primaire où vous allez voir ces classes de CM2 pour leur annoncer les grandes orientations du nouveau gouvernement. Vous voilà donc ministre de la réforme de l'État. Qu'est-ce que c'est que cette attribution et pourquoi vous avoir choisi ce portefeuille-là?
Justement, c'est une victoire qui est claire. Donc, nous avons choisi ce portefeuille pour éclairer les citoyens et pour aider les enfants des citoyens à devenir eux-mêmes des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une trop grande méconnaissance de la vie politique, de la vie sociale et économique de la part de beaucoup d'entre nous. Et il est important que dès l'enfance, les éléments de base de fonctionnement de notre société soient compris par les enfants et qu'ils s'insèrent dans ces instances qui forment l'État et la société.
Madame la ministre,
Il faut que nos savoirs en sociologie, nos savoirs en économie et le peu de savoir que nous connaissons sur le droit, il faut arriver à le vulgariser, à le rendre accessible. Et on s'est dit avec Michel, pourquoi pas commencer dès le primaire.
Alors, connaissance médiocre des institutions politiques, de la vie sociale et économique, j'ai en plus l'impression que ça s'est quand même pas franchement arrangé ces 20 dernières années, non. Est-ce qu'il y a encore...
Mais ça, c'est un son récent, hein.
Ouais, je sais.
Commence sur un son un peu d'archives, ouais. Mais là, le bilan que font donc ces ministres de fiction, il est pour aujourd'hui, quoi. La fiction, elle se plaçait au 6 mai 2012.
J'ai bien compris, Ariane. Non, mais moi, je me souvenais quand même que quand j'étais au collège, j'avais des cours d'instruction civique. Ça remonte à il y a quelques années, tout ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, finalement.
Mais si, bien sûr.
Bien sûr, il y a un moment, on en a plus.
Histoire géo, éducation civique.
Ouais. Mm-hmm. Je crois qu'à un moment, on n'en a plus. Moi, je ne me souviens pas d'en avoir eu. Et c'est revenu à un moment donné, voilà, où on réapprend un peu le fonctionnement des institutions et
alors,
tout
la
ça.
Difficulté, c'est que tu les apprends en effet au collège ou au lycée, suivant les filières que tu fais.
Et tu les oublies vite.
Déjà, au moment où tu les apprends, tu n'as pas le droit de vote.
Ouais. Et puis en plus, c'est quoi?
Et quand tu as le droit de vote, comment tu accèdes aux informations qui sont modifiées assez régulièrement, en fait?
Mise à jour.
Et en plus, c'est quoi? C'est très sporadique au niveau de l'horaire. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein,
oui,
comme,
oui.
Mais après, c'est toujours pareil. Ça dépend comment les profs le font vivre. Parce qu'il y en a qui sont capables de prendre le truc à bras-le-corps et de faire le lien avec l'élection des délégués des élèves, etc.
Bien
et
sûr.
Du coup, là, ça devient vivant et on le retient.
Et bah, tu veux pas nous faire un petit cours de rattrapage, du coup, là, sur les modes de scrutin, par exemple, Ariane?
Alors, par exemple, moi, j'ai été élue au CA de... Non, c'est pas ça, pardon. Oui, j'ai voulu me pencher sur les formes de scrutin parce que ça a aussi nourri la façon de voter. On en parlera un petit peu plus ensuite.
Ouais.
Puisque c'est vrai que donc on s'est posé la question de stratégie, etc. Puisque là, les deux scrutins qui nous attendent prochainement, donc à commencer par la présidentielle, c'est des scrutins uninominaux à deux tours. Alors la différence entre les deux, c'est qu'au présidentiel, c'est ceux qui arrivent avec les meilleurs scores à la fin du premier tour qui peuvent donc se présenter au deuxième tour.
Les deux premiers.
Voilà, juste les... Voilà, il n'y a pas de médaille en chocolat et même pas de bronze, que dalle. Aux législatives, ceux qui auront recueilli plus de 12,5% des suffrages exprimés. Donc c'est hors bulletin blanc, hors abstention, etc.
Oui, c'est important de le préciser.
Peuvent se maintenir. Donc on peut retrouver les situations qu'on a connues par le passé, de triangulaire, voire figure géométrique plus compliquée.
Oui, c'est vrai.
Donc prendre en compte cette structure de comment sont recueillies nos voix, comment elles sont comptabilisées dans les scrutins, ça peut faire partie de comment on vote ensuite.
Une stratégie de vote.
Y a quand même eu un événement quand même marquant. Moi, en 2002, j'ai pas voté Jospin et ça m'a fait mal à la gueule et ailleurs, le deuxième tour, quoi.
Ouais, y a pas qu'à toi. Et du coup, c'est vrai que depuis donc 2002, il y a un phénomène qui est apparu de façon vraiment flagrante, c'est ce fameux vote utile, parce que finalement, Gisela, on n'en parlait pas vraiment avant. En tous les cas, moi, j'en ai pas le souvenir.
Non, c'est un mot qui est apparu après 2002. Vote utile, ça veut dire... En gros, il faut faut qu'il y ait au moins un candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle. Parce voilà. Que ça s'adresse que pour l'élection présidentielle.
C'est...
On n'en parle pas, par exemple, pour les législatives et tout ça, on n'en parle que pour la présidentielle.
Les deux premiers, là, avec la nouvelle forme, seulement les deux premiers sont au deuxième tour. Avec les législatives, tu peux avoir quand même plusieurs personnes qui font plus de 12,5% des voix. Donc c'est moins sensible pour ce premier tour. Et c'est vrai qu'en France, il y avait une autre expression antérieure, c'était au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Et donc traditionnellement, selon cet adage-là, on votait pour qui on voulait vraiment au premier tour, et puis on faisait le moins pire, une expression qui va être reprise dans le son qui vient après, au deuxième tour. Et c'est vrai que ce mot d'ordre, vote utile, qui a fleuri après 2002... c'était faire le moins pire tout de suite.
Oui.
Et ça, pour moi, hein, ça a vraiment...
conditionner ton vote au premier
tour. C'est pas seulement, c'est plus désenchanté, tu vois. Mm-hmm. C'est vraiment faire un choix de sécurité. Ça favorise le conservatisme de toute façon, parce que tu vas, enfin voilà. Et moi, ça colle pas, tu vois, à mon élan, à moi, par rapport à la vie politique. Si,
alors, ça favorise le conservatisme. Oui, t'as raison. Au tout le moins, le bipartisme.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ça entérine le fait qu'on est passé dans un mode pour la présidentielle de biparti et pas autre chose.
C'est-à-dire puis c'est vraiment un monde de pronostiqueurs, quoi. Parce que tu joues, enfin, tu vas voter en fonction des sondages.
Oui.
Or, oui, moi, les sondages, enfin, voilà. Et puis aussi avec l'acuité relative dont ils ont pu faire preuve jusque-là, et peut-être en particulier en 2002, même s'ils disent qu'il y avait un mouvement qui... Enfin bref. Et
alors, sans considération politique, ça peut aussi d'emblée éliminer un candidat qui pourrait l'emporter au second tour contre tous les autres. Hein. On peut, alors là, je fais de la prospective. On peut imaginer qu'un second tour... Bayrou-Sarkozy, Bayrou pourrait l'emporter, et un second tour Bayrou-Hollande, on pourrait aussi imaginer que Bayrou pourrait l'emporter. Non, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bien sûr. non, mais c'est vrai, quoi. Ouais. Logiquement, on se prive de possibilités en faisant le vote utile. On se prive de possibilités.
Mais ce qu'on va t'opposer, si tu le prends comme ça, c'est tu te prives aussi éventuellement d'avoir... la dynastie Le Pen.
Ouais, au deuxième tour.
Enfin, personnellement, on ne va pas en souffrir, mais...
Non, mais...
Moi, je ne suis pas certain...
Si tu votes utile en te disant « j'ai pas envie d'avoir XY Le Pen »,
oui.
Voilà.
Sauf que dans l'hypothèse d'un second tour, d'ailleurs, ça s'est vérifié en 2002, finalement, il s'avère qu'à peine 20% des votants étaient prêts à voir Le Pen accéder au pouvoir, quoi. Tu vois ?
C'est autant qui ont voté pour au premier tour, quoi.
Oui,
enfin, tu vois,
mais pas plus.
Mais pas plus. Ouais, bien sûr. Bah oui, mais ça change rien au problème
papa.
Du vote utile.
C'est plus papa. Et ça, voilà. Et sur le côté qui bride, quoi, l'expression au premier tour et qui pose d'autres problèmes, voilà. Mais bon, on l'a déjà vu en 2007. On va peut-être écouter...
Marie-Georges.
Voilà, Marie-Georges Buffet qui s'exprimait en 2007 avant le scrutin à propos de...
Avant le premier tour.
Ouais.
Mais ce que vous dites, en fait, c'est que la campagne de 2002 plombe la campagne de 2007. Les électeurs de gauche ne veulent pas que Jean-Marie Le Pen soit au second tour. Donc cette année, la sécurité, ça va être le bulletin socialiste dès le premier tour. C'est une campagne impossible quand on est à la gauche du Parti Socialiste.
Non, c'est pas une campagne impossible, parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de faire bouger la gauche. Donc cette candidature, elle contribue à poser, le débat sur le projet. Moi, j'ai envie d'un débat où j'aurais Ségolène Royal en face de moi, je lui dirais, Ségolène, qu'est-ce politique il faut que la gauche mène pour que cette fois-ci elle réponde aux attentes des hommes et des femmes de ce pays, des jeunes. Et j'aurais envie de l'interroger sur telle ou telle proposition, de lui faire part moi de mes propositions.
Or aujourd'hui, vous ne parlez pas ?
Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une sorte, il n'y a plus de premier tour. Nous sommes à la veille du second tour. Il faut que vous choisissiez celui que vous allez prendre. Le moins pire pour éliminer le plus pire, comme disent les enfants.
Non, mais ça, c'est ce que dit Jean-Michel, c'est un peu l'effet 2002. Cristallise au fur et à mesure qu'on approche du...
Mais c'est un piège.
Parce que... C'est ce que les sondages indiquent encore aujourd'hui.
Mais c'est un piège parce que si on vote simplement pour le moins pire, demain, on va de nouveau être déçu. Et on va aller d'alternance en alternance, et l'idée même du changement va disparaître de ce pays. Et moi, j'ai pas envie de dire à mes gosses de se résigner. J'ai envie que demain, on puisse encore, dans ce pays, avoir des forces qui portent l'idée qu'on peut quand même vivre un peu mieux qu'on vit aujourd'hui, qu'il peut y avoir un peu plus de justice dans ce pays.
Vous dites que c'est un piège, Marie-Georges Buffet, parce que vous avez la conviction, et vous pourriez le dire comme ça ce soir, que Jean-Marie Le Pen ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle?
Si on veut qu'il ne soit pas au second tour, si on veut faire en sorte que Le Pen recule et De Villiers par la même occasion, il faut redonner espoir à toute une série d'hommes et de femmes aujourd'hui, qui sont dans le désespoir, qui cherchent le responsable de leur malheur chez le voisin, parce que le voisin est venu d'un autre pays.
Et bien vous n'adressez pas aux électeurs du Front National.
Mais je dis aux hommes et aux femmes de ce pays, veut que les choses changent, il ne faut pas s'attaquer à son voisin, il faut s'attaquer aux nantis, il faut s'attaquer à ceux qui nous volent le pouvoir, et tous ensemble, on peut faire changer les choses. Il faut recréer de l'espoir à gauche.
Mais ce n'était pas tout à fait ma question. Vous dites aux gens qui viennent vous voir en vous disant « peut-être je vais voter Ségolène Royal dès le premier tour », le vote utile. Vous leur dites « non, il ne faut pas faire cela, il faut voter à gauche, puisque ce sont des électeurs de gauche qui s'adresse à vous,
leur
candidat préféré. Cela veut donc dire que pour vous, dans cette élection de 2007, il n'y a pas de danger Jean-Marie Le Pen.
Je vous dis qu'on ne peut pas dire aux gens qu'il faut absolument, obligatoirement, se ranger tous Thomas Solom derrière Ségolène Royal, parce qu'il y aurait le danger Le Pen. Pourquoi je dis ça? Parce que si on fait ça, demain, la gauche de nouveau va décevoir, et Jean-Marie Le Pen, là, il aura toutes les chances, en effet, d'aller très loin dans la prochaine campagne électorale.
Mais donc, il n'y a pas de danger Le Pen?
Mais il y a un danger Le Pen, mais comment combattre ce danger, si ce n'est M. Apathy, en faisant en sorte que sa politique recule? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, Le Pen? On ne le dit pas assez. Il nous dit, comme encore cet après-midi, il y a inégalité des races. Il ose dire que les Noirs sont bons pour courir, il l'a encore dit cet après-midi, et que les Blancs seraient bons pour nager. Mais il ajoute autre chose. Il ajoute qu'il faut terminer les 35 heures, terminer la retraite à 60 ans, terminer qu'on est tous assez à la santé. Il faut lire aussi son programme, plus libéral que lui, tu meurs, dont c'est un attrape. Il faut vraiment que les hommes et les femmes du monde du travail se disent que cet homme-là, il est encore plus libéral que Sarko ou de Bérou, et qu'en plus c'est un raciste, un homme qui porte la haine et le repli. Donc il faut le combattre comme ça. Et il faut le combattre en disant qu'à gauche, une autre politique est possible, et qu'on n'est pas obligé de subir la droite ou une gauche du renoncement.
Ouais, alors bah, le raisonnement se tient. Après, effectivement, alors on rappelle quand même que ça...
Et presque se vérifie.
Et presque, en tous les cas, pour ce qui était de l'élection de 2007, oui.
Non, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'on a eu une alternance qui n'a pas donné d'autre espoir d'un espace social moins oppressant pour tout un chacun.
Oui.
Et on se retrouve avec un Front National qui semble une menace. Voilà, moi,
qui indirectement joue un rôle prépondérant dans la campagne.
Voilà.
En tous les cas, dans la façon dont elle est menée. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi je suis d'accord. J'aime bien ce son, en fait. Mm-hmm. Le fait qu'on ne fait pas reculer. Jean-Marie Le Pen en lui piquant ses idées, en les légitimant, mais en faisant une politique qui fasse que les gens aient plus envie de voter pour lui. Mmh. Je trouve ça, vraiment, ça me paraît être la bonne voie en tout cas.
Une autre façon de vivre en société et qui soit pas avec bouc émissaire et voilà.
Compagnie et attrape Nigo. Pour finir l'expression.
Oui, parce que on sait
moi j'ai pensé à Nigo, tu vois.
Non mais aussi, Nigo, je pense qu'elle l'aurait rigolo. Dit.
Oui, d'accord. On fait une pause musicale et on parle après réforme territoriale.
Allez,
le mot est lâché.
What is love? trying to find out, is there really such a thing?
Bah ça a quand même près de 20 ans ce truc hein.
Ça a 20 ans ?
Ça a 20 ans
oui.
Ça ?
Bah oui.
Ah moi je croyais qu'ils avaient refait un truc entre temps.
Bah
coup,
non,
pour
non, non,
les
non,
reserves.
Non. Bah non, 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 je suis allé pêcher ça dans ma discothèque.
De quand t'étais jeune.
De quand j'étais jeune. Voilà.
Ah, c'était vachement bien, n'empêche, attends, ça c'est un truc qui sortirait maintenant, ça aurait un super succès.
Bah ouais.
Mais attends qu'ils nous fassent un remix, attends, tu vois.
Bon, parfois les remixes sont pas forcément plus terribles que les originaux.
Bah non,
la
souvent
preuve.
On préfère les originaux, mais ils font quand même des remixes.
Et ouais. Réforme territoriale, Ariane.
Oui.
C'est autre chose que Delight. Hein.
Ouais, là tout à coup l'ambiance
ouais,
retombe, tu vois.
Alors il nous reste 8 minutes pour en parler, me fait signe Tao.
On
va laisser d'autres en parler. Ouais, simplement dire que donc, ça correspond en fait à une réforme structurelle de toute l'organisation administrative française.
Leçon nous le
dit. Bon, bah, je ferme ma gueule, c'est ça.
Mais t'as dit qu'il restait pas
comment
longtemps.
Comment tu te prends une baffe, là, j'y crois pas.
On écoute.
Je le connais, le son, il me fait rigoler.
La réforme des collectivités territoriales doit entrer en vigueur le 1er janvier 2015. Mais les changements seront visibles dès 2014, puisqu'aux prochaines élections régionales, on ne votera plus pour des conseillers régionaux, mais des conseillers territoriaux. Aujourd'hui, il y a 253 conseillers régionaux et généraux, 67 conseillers régionaux et 186 conseillers généraux. Demain, en 2014, il y aura 167 conseillers territoriaux élus pour 6 ans. Il y aura donc 86 élus en moins. Il ne s'agit pas pour autant d'une fusion entre les départements et les régions. Les deux collectivités subsisteront. Mais la question cruciale est celle de leurs compétences, car la réforme supprime la clause de compétence générale qui permettait aux collectivités d'intervenir sur quasiment tous les sujets. Seuls 3 domaines resteront partagés entre la région et le département, le tourisme, la culture et le sport. Les autres domaines devront être partagés, ce seront leurs compétences exclusives. La réforme prévoit également la fin des financements croisés, un projet égale une seule source de financement. La création de métropoles qui devra regrouper au moins 450 000 habitants. À titre d'exemple, Montpellier Agglomération en compte aujourd'hui 421 000. Et enfin, la simplification de la carte des intercommunalités. Plus aucune agglomération de moins de 5000 habitants ne devra encore exister. Dans l'Hérault, par exemple, 5 communes ne sont à ce jour rattachées à aucune agglomération. Les élus devront s'entendre d'ici fin 2011. Cette réforme territoriale aura forcément un fort impact sur l'activité des régions, puisque les collectivités portent 75% de l'investissement public.
Alors, les chiffres qu'on entend, ça correspond à Languedoc-Roussillon, c'est ça ?
Oui, là, c'était en Languedoc-Roussillon, c'est un document local. Donc, quand tu as dit aujourd'hui, par contre, pour la population de Montpellier, c'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui un peu passé. Mais sinon, c'est ça, ouais.
C'est aujourd'hui un peu passé, c'est-à-dire de quelques mois ou 421 000
je ne suis pas le compte parce que.
Je
ne
sais pas non plus, ouais.
La construction
mais...
galopante sur des zones agricoles utiles, ça m'énerve un petit peu. Donc,
non, je ne suis pas ça au jour le jour. Je ne comprends pas.
Il y a un afflux de gens chaque jour dans les routes, oui. C'est impressionnant.
Mm-hmm. On a passé le cap, c'est... en tout cas, de y a plus de la moitié de la population héraultaise qui est néo-héraultaise. Est...
Mm-hmm. Oh, oui, bien sûr. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça va toucher plein de choses au niveau des institutions, mais que c'est une réforme complètement bizarre, quoi. On va réduire le nombre des gens, on ne va pas réduire leurs compétences, et on va séparer plein de compétences, on va enlever la clause de compétence générale, qui est un truc assez incroyable, et on va faire en sorte
que ça veut dire qu'on peut plus...
un projet, un financement, c'est ça ? C'est-à-dire que, par exemple, une compagnie de théâtre ne pourra plus être financée à la fois par la région et par le département.
Alors, il y a une seule source de financement, c'est
voilà.
Ça
si l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont censés tant se répartir les compétences qu'il n'y aurait pas de doublons, mais la perte de la compétence générale, ça veut dire que si cette compétence n'est pas expressément donnée, tu ne peux pas financer.
Tu ne peux pas financer,
et c'est un problème qu'on a rencontré aussi ailleurs avec des municipalités. Enfin, ça pose des problèmes pour le financement des activités associatives, même
oui,
si elles sont reconnues d'utilité publique, etc. Et ça favorise donc ce qu'on avait déjà vu fleurir, qui est la subvention en fait sur contrat et non plus sur projet.
Oui.
Ça veut dire que le diagnostic vient toujours d'un État central ou d'une région centrale, et encore, quels fonctionnaires vont... Enfin, voilà. Et le diagnostic, il est plus en remontant du terrain, puisqu'à chaque fois, il y a la volonté de réduire le nombre de personnes au plus près, quoi.
Bon, alors, ça génère quand même un certain nombre de réactions, quelle que soit l'origine de ces réactions. Là, on va écouter, c'est trois députés, c'est ça ?
Oui, tu me laisses le micro ouvert, Tao, comme ça je vais dire qui c'est au fur et à mesure.
Voilà.
C'est un leurre que de faire croire aux Français qu'on va faire des économies en fusionnant les régions et les départements, ou en fusionnant les élus des départements et des régions. Les compétences respectives des départements et des régions devront continuer à être exercées.
C'est une décision qui est extrêmement inquiétante parce qu'elle se base sur un populisme éculé, qui est celui de diminuer le nombre des élus et liser derrière leurs privilèges, qui est complètement débile, puisque l'opinion publique en France reconnaît dans son immense majorité que les élus de terrain, que sont les maires par exemple, et les conseillers généraux, sont les élus les plus proches de leurs préoccupations.
À dire vrai, dans cette réforme, je trouve que, pas qu'il y en a trop, je trouve à bien des égards qu'il n'y en a pas assez. En même temps, cette réforme, j'aurais apprécié qu'on la mène plus rapidement, qu'on la fasse avant la réforme de la fiscalité locale par exemple. À réformer la taxe professionnelle avant de réformer la décentralisation, on met la charrue avant les bœufs.
Alors, cette réforme, il faut vous rappeler, hein, c'est Sarkozy qui l'a engagée en 2008. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites pour savoir comment réorganiser tout ça, avec des rapports qui sont succédés. Aujourd'hui, ça reste un peu nébuleux, non ? Vous ne trouvez pas ?
Bah, ça a été voté, mais alors voilà, on s'interrogeait avec Ariane. D'ailleurs, elle est rouge en colère, Ariane, si vous avez. Franchement, c'est impressionnant. Par exemple, on a essayé de trouver le mode de scrutin de cette nouvelle élection et c'est pas possible. C'est on ne sait pas.
Bah, on n'est pas d'accord. En tout cas, on n'a pas trouvé les mêmes réponses. On n'a pas les mêmes sources. Moi, je suis allée sur un site qui me semblait assez institutionnel, mais j'y ai trouvé des informations qui étaient plus à jour. Et donc, moi, ce que j'avais trouvé, c'est un suffrage uninominal majoritaire à un seul tour pour 80% des sièges à pourvoir et les 20 autres pourcents, un scrutin de liste.
D'accord.
Je rappelle qu'actuellement, les régionales, c'est un scrutin de liste, et les cantonales, c'est un scrutin uninominal à deux tours.
Sauf donc, que moi, après, ça, c'était le projet initial, et que moi, après, j'ai regardé ce que les journaux disaient après le vote de l'Assemblée, et mes informations seraient un scrutin donc uninominal à deux tours et majoritaire, c'est-à-dire sans proportionnel.
Donc, ben, voilà.
Donc, si vous avez des infos.
Ouais, de toute façon, je pense que la question n'est pas close. Et puis, en fonction du président élu, à mon avis, ça risque d'évoluer derrière.
Oui, Hollande a dit qu'il ne ferait pas du tout comme ça, c'est clair.
C'est clair, donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Mais
oui,
ce que je
ça va être le mot de la fin, Ariane.
Signaler, c'est que même s'il n'y en a que 20% et pas du tout, la proportionnelle recule. Et c'est encore une fois l'impossibilité de s'exprimer librement, au moins dans un premier tour, etc.
On est d'accord sur le papa du tout.
Hein ?
Non, c'est ce que tu as dit, papa du tout.
Ah bon ?
Oui.
D'accord, mais on est d'accord.
Au revoir.
On va se reposer un peu.
SLP ? Si tu es sage, on va recommencer. Je raconte une histoire d'amour. Au printemps, un rossignol se pose sur un cerisier. Le cerisier dit au rossignol « Ouvre tes bourgeons, fleuris avec moi. » Le rossignol dit au cerisier « Ouvre tes ailes, vole avec moi. »
Ils sont bien partis, tes mecs. Tous les paumés qui se marient sont pareils. Tous aussi bien assortis. Casserole, cheval, poisson, raton, doigt de pied, bigoudi, et chacun des deux pense qu'à friser l'autre ou à le faire entrer dans sa godasse.
Je raconte la fin de l'histoire. Alors le rossignol ouvrit ses bourgeons et fleurit, et le cerisier ouvrit ses ailes et s'envola en apportant le rossignol.
Et qu'est-ce que c'est ? Une fable ?
C'est l'amour.